Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Salut la team podcast, ici Pauline Agneau et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de coaching par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des RH, des réseaux sociaux et bien plus. Parce que l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je vous ai concocté un épisode très spécial qui va parler de la crise que nous vivons. Vous êtes très, très nombreux à m'avoir témoigné sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, votre détresse, entrepreneur, freelance, indépendant, dirigeant de TPE, de PME. Je sais que la situation actuelle de pandémie a un impact économique sans précédent sur beaucoup d'entre vous, sur moi également. Alors, loin de moi l'idée de minimiser le risque humain et sanitaire de cette crise, mais j'ai naturellement un biais et une empathie personnelle pour les entrepreneurs. Donc je voulais vous venir en aide et j'ai donc demandé à mon amie Marie-Laure Méolan du cabinet Victoire Avocat de répondre à vos questions sur la gestion sociale et RH de la crise que nous traversons. Vous pourrez retrouver Marie-Laure sur le web, sur le site de Victoire Avocat, son cabinet, donc qui est tout simplement www.victoire-avocat pour le coup avec un s.eu, sur LinkedIn également, sur Instagram. Je vous mets en tout cas tout ça, ne vous inquiétez pas, et tous ces contacts dans les notes de l'épisode. Marie-Laure a également un podcast que je vous invite d'ailleurs à découvrir en ces temps où nous, on a un petit peu plus de temps devant nous. Son podcast s'appelle « Droit devant ». Il promet de rendre le droit du travail plus simple et plus accessible à ceux qui l'écoutent. En cas de demande spécifique, Marie-Laure nous a aussi très généreusement laissé son contact et donc vous pouvez lui envoyer un mail tout simplement à m.meolans@victoire-avocat.com. Quoi qu'il en soit, avec Marie-Laure, on a évoqué des sujets très difficiles, le licenciement économique, la gestion du chômage partiel, comment gérer globalement cette crise que nous vivons. Je sais que ça ne va pas être un moment des plus faciles à écouter, mais j'espère qu'il sera utile à de nouveaux d'entre vous, parce que je sais également que vous vous posez de très nombreuses questions, que le droit est un sujet complexe et très évolutif. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Marie-Laure, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir.
Eh ben merci Pauline de me recevoir sur le gratin.
Ça me fait très plaisir parce que j'ai plein de questions pour toi. Comme tu sais, j'ai demandé à l'audience du gratin dans ce moment de crise si particulier quels étaient leurs gros enjeux. J'ai ressenti beaucoup de détresse de la part de nombreux entrepreneurs, nombreux indépendants ou des dirigeants d'entreprise qui très honnêtement se sentent assez perdus, assez paumés. Et moi-même, pour être dirigeante d'entreprise, franchement, je vois bien que la situation est assez inédite en termes de difficultés et je pense que pour beaucoup c'est probablement dans la vie de leur entreprise le moment le plus dur qu'ils aient vécu. Et comme on le sait, les moments, les sujets RH, notamment les sujets sociaux, sont en général particulièrement difficiles à gérer et complexes. Donc je voulais te poser plein de questions à ce sujet parce que je sais que tu en as une grande expertise. Mais avant de commencer, si ça te va Marie-Laure, j'aimerais bien que tu te présentes et puis que tu me présentes ton activité également.
Eh bien, alors oui, je me doute, c'est effectivement une situation inédite et puis aussi totalement anxiogène. Alors, pour répondre à ta question, donc moi, je m'appelle Marie-Laure Méolan, je suis avocat en droit du travail au sein d'un cabinet qui s'appelle Victoire Avocat. Je suis avocat au barreau de Paris depuis 12 ans maintenant et j'ai créé ce cabinet, donc Victoire Avocat, il y a 4 ans désormais. Donc nous sommes une équipe dédiée au droit du travail qui compte plusieurs avocats, plusieurs collaborateurs et également une juriste. Donc nous sommes 5 en tout à nous pencher sur ces questions qui préoccupent évidemment les entrepreneurs au quotidien, surtout en ce moment effectivement.
Et tu me disais que justement vous aviez évidemment énormément de boulot, donc je te propose en fait de rentrer directement dans le vif du sujet, parler donc de ces aspects RH de la crise, surtout en fait vraiment n'hésite pas à me donner si tu peux des conseils concrets parce que je pense que les auditeurs sont très très demandeurs pour ça. Alors la première question que j'ai reçue, c'est tout simplement en fait la question du chômage et du chômage partiel, chômage technique. Concrètement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont lu un peu tout et son contraire sur les divers sites du gouvernement et que c'est pas forcément évident pour eux de comprendre aujourd'hui s'ils vont être remboursés, comment ça se passe, combien de temps va mettre le remboursement à arriver, sachant qu'évidemment pour beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de dirigeants, bah c'est une avance de trésorerie qui est importante. Donc, est-ce que tu pourrais déjà assez simplement juste m'expliquer qu'est-ce que tu sais aujourd'hui du processus, comment est-ce qu'on doit le mettre en place et en faire la demande, et puis aussi concrètement comment voilà est-ce que ça se passe en pratique après pour l'entreprise?
Ouais. Alors, ben, effectivement, donc le chômage partiel, c'est un dispositif qui a été déployé et qui permet de répondre à des circonstances exceptionnelles, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc concrètement, ça va pouvoir être activé par des entreprises qui se trouvent dans une situation, soit qui sont contraintes de fermer complètement leur établissement. Alors ça peut être une partie de l'établissement, donc ça peut être également un service. Typiquement, toi, chez Gémio, de ce que je comprends, vous avez des boutiques, ouais. Et puis vous avez le staff qui est situé au siège de la société, on peut envisager de fermer le retail, enfin l'activité de vente en réalité, qui n'est plus autorisée de toute manière désormais, mais en réalité de continuer dans certaines conditions évidemment à faire travailler des collaborateurs au sein d'un siège d'entreprise. Donc on va pouvoir, si tu veux, isoler une collectivité de travailleurs, ça peut être toute l'entreprise ou une collectivité de travailleurs bien déterminés qu'on va pouvoir placer en chômage partiel. On va pouvoir également réduire les heures de certains des salariés qui travaillent avec nous, toujours au sein d'une même collectivité ou d'une même entité.
D'accord.
Et donc, ces mesures qui sont effectivement collectives vont pouvoir être mises en place pour soulager les entrepreneurs et les entreprises de la gestion de ces salaires qui finalement ont des charges qui sont élevées alors même que les entreprises n'ont plus de besoin en termes de masse de travail. Donc alors, comment ça se passe concrètement? Ce sont des indemnités compensatrices qui vont être de chômage partiel qui vont être versées par l'employeur au salarié.
D'accord.
En réalité, l'employeur va verser une rémunération au salarié qui s'élève à 70% de la rémunération brute.
Donc concrètement, pour le dire simplement pour les personnes qui nous écoutent, l'employeur doit quand même avancer les frais à son employé pour le payer à hauteur de 70% du brut, c'est ce que tu dis?
Exactement.
D'accord.
Ouais, c'est exactement. L'avance est systématiquement réalisée par l'employeur. En revanche, ce n'est pas du salaire, donc ce ne sont pas des sommes qui vont être soumises à charge sociale.
D'accord.
Elles seront uniquement soumises à CSG et à CRDS. En termes de traitement social, c'est ça le régime. Et ensuite, effectivement, l'État prendra le relais et fera un remboursement à l'employeur de ces sommes qui ont été versées aux salariés. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a deux mécanismes. Le premier, c'est l'employeur qui verse les 70% de la rémunération brute aux salariés, qui fait effectivement l'avance des frais. Donc, on voit bien que le salarié n'est pas pris en charge à 100%.
Ouais.
En revanche, l'État, lui, va verser l'intégralité des 70% de la rémunération brute déboursée à l'entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors et ce qui fait partie du dispositif exceptionnel déployé dans cette circonstance, en fait.
D'accord.
Voilà. Et donc, avec une limite haute, néanmoins, dont on attendait les précisions encore récemment, qui s'élève à 4,5 fois le montant du SPINC, c'est-à-dire 6 900 et quelques euros. Donc, ça sera la limite haute au-delà de laquelle l'État ne versera pas, qui sera une sorte de plafond haut au-delà de laquelle l'État n'interviendra plus, si tu veux.
Donc, concrètement, si on résume, en gros, l'État va rembourser, prendre en charge quand même une très, très grande partie de ces... Alors, pas salaire du coup, mais de ses rémunérations. Et avec, comme tu l'as très bien souligné, on avait une petite crainte quand même sur le plafond et sur le fait que ça serait peut-être limité uniquement à des salaires qui sont au SMIC. En réalité, quand même, là-dessus, ça monte assez haut parce que 4,3 fois, c'est quand même des plafonds qui sont intéressants.
Exactement.
Super. Exactement. Clair. Concrètement, au niveau de la démarche, après, comment est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se pose ces questions? Je prends un exemple. Moi, avec Gémio, les boutiques sont fermées. Donc, typiquement, on s'est posé la question. On se dit, est-ce qu'on veut... On a, mettons, une dizaine de personnes qui travaillent dans les boutiques. Est-ce qu'on veut continuer à les payer avec nos deniers, entre guillemets, alors que l'activité est nécessairement fermée? Ou est-ce qu'on préfère passer en chômage partiel? La réponse est que pour une grosse partie de l'équipe, c'est pas nécessaire, en fait, de continuer à leur demander de travailler actuellement. Et donc, on a fait cette démarche. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être aux personnes qui se posent la question et qui ont envie, un, comment faire la démarche, et deux, s'ils ne l'ont pas déjà faite en amont, est-ce que ça peut être rétroactif?
Alors oui, donc effectivement, la première démarche, ça va être de créer un espace entreprise, en fait, sur le site d'activité partielle qui est mis à disposition par le gouvernement, avec tout un tas d'informations qu'on va vous demander lors de la création de cet espace, donc le numéro de sirène, le nom de l'entreprise, tout un tas d'informations relatives à l'entreprise. Les entreprises peuvent effectivement s'en charger ou désigner un tiers déclarant pour réaliser ces opérations. Donc, ça peut être un avocat, d'accord, un expert comptable, le tiers de confiance à qui il confie cette tâche. Et ensuite, expliquer, toujours en ligne, toujours sur ce site d'activité partielle, le motif du recours. Donc, en l'occurrence, c'est la pandémie qui s'est déclarée, des informations générales sur l'entreprise et concrètement, comment on envisage de le décliner au sein de la structure. Donc, est-ce qu'on baisse le nombre d'heures? Est-ce qu'on met un service entier en chômage partiel? Comment est-ce que en activité partielle? Comment est-ce que ça s'organise concrètement? Donc, on décrit toutes ces choses-là et on va joindre un certain nombre de pièces qui peuvent être notamment... si l'entreprise a atteint une certaine taille et compte un comité social et économique, ça peut être le procès-verbal, le justificatif de la consultation de cette instance de représentation du personnel. D'accord. Toutes ces pièces vont être téléchargées en ligne lors de la constitution de ce dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, compte tenu de l'afflux massif de demandes qui a été faite sur le site a été inaccessible pendant un moment.
J'ai vu qu'il a bugué pendant un moment, qu'il était down.
Voilà, exactement.
C'est normal.
Et donc, en principe, ces demandes d'activité partielle sont systématiquement faites en amont de la mise en activité partielle, justement. Mais là, l'État a à nouveau pris des dispositions spécifiques à cette situation exceptionnelle en disant que on va pouvoir, de manière rétroactive, bénéficier de ce dispositif, que les sociétés auront donc 30 jours pour déclarer cette activité partielle, même si elles ne l'ont pas fait immédiatement au moment de la mise en œuvre.
Mmh. Toi, tu aurais une recommandation? Tu me parlais du fait de déléguer éventuellement cette demande ou de le faire soi-même en tant qu'entrepreneur. J'ai beaucoup aussi de personnes qui m'ont dit sur les réseaux comment faire pour gérer le social, sachant que moi, j'y connais pas grand-chose et que mon comptable, il est complètement sous l'eau ou la personne qui s'occupe de tout ce qui est social dans le cabinet avec lequel je travaille est complètement sous l'eau et met énormément de temps à me répondre. Est-ce que toi, tu aurais plutôt tendance à dire... alors, je sais que c'est difficile de donner un conseil quand on est avocat aussi précis, mais allez-y quand même, les amis, essayez de vous lancer et de le faire tout seul plutôt que d'attendre quelqu'un qui potentiellement va mettre un petit peu de temps à vous répondre. Quel serait ton avis là-dessus?
Alors, moi, je serais évidemment d'avis, parce que c'est mon quotidien, de sécuriser quand même les procédures, puisque je constate que effectivement, quand les dossiers ne sont pas suffisamment bien construits, et notamment quand il manque l'avis de l'instance, donc du comité social économique, si jamais il existe dans les entreprises, ça peut être un motif qui va ou retarder la prise en charge ou conduire à l'échec de la prise en charge. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Il faut vraiment rester dans les clous et réaliser un certain nombre de démarches qui sont impératives et qui vont permettre... à l'employeur d'être remboursé de manière effective des sommes qu'il aura avancées. Donc, c'est quand même pas mal de sécuriser la demande. Ensuite, ça dépend effectivement de la taille de l'entreprise. Bien sûr. Il y a des petites sociétés qui décident de le faire en interne. Et c'est vrai que quand on n'a pas de salariés protégés, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'élus du comité social et économique ou qu'on n'a pas de comité social et économique et qu'on n'a pas encore atteint une certaine taille, on peut arriver à s'en occuper. Moi, pour l'anecdote, donc... j'avais certains clients qui m'avaient sollicité sur des consultations ponctuelles et plus récemment, on m'a demandé moi-même de me charger de ces déclarations, ce que j'ai fait. Oui. J'ai dû me connecter à 1h du matin sur le site d'activité partielle parce qu'effectivement, le site buguait complètement. Mais bon, ça y est, toutes les déclarations sont faites à ce jour. Mmh. Ensuite, il y a un certain nombre d'interrogations qui se posent parce que parfois, on se dit, bon bah, sur quelle période je m'engage, enfin, quelle est l'autorisation que je demande. Voilà, quel est l'effectif concerné? Bon, ce qu'il faut faire, c'est que, en réalité, moi, pour l'instant, j'ai déposé des demandes jusqu'au 30 juin 2020.
Ah oui.
Voilà, je pense que c'est mieux de faire
un peu trop que pas assez
large. Voilà. Et puis de toute manière, on peut faire ensuite des avenants à la demande et restreindre soit la durée qui était initialement prévue. Enfin, donc on pourra faire des aménagements en cours de route, mais voilà.
Et pareil sur le nombre de salariés. Je te donne encore un exemple pareil qui vient de beaucoup de demandes sur mes réseaux, mais des gens qui me disent bah voilà, je sais pas exactement, est-ce que je vais devoir mettre tout le monde vraiment en chômage partiel ou est-ce que finalement ça sera pas utile que certains travaillent sur le fond et du coup qui en savent rien franchement à ce stade parce que là c'est encore les premiers jours, ils savent pas comment aussi leur clientèle va évoluer. Et donc dans ce cas, qu'est-ce que tu recommanderais? Plutôt de prévoir un peu trop large aussi, quitte à revenir en arrière, ou que faire?
Oui, on peut faire des aménagements. Après, voilà, encore une autre subtilité de ce dispositif d'activité partielle, c'est vraiment la collectivité de travailleurs qu'on identifie. C'est-à-dire que si on a deux personnes au sein du service administratif, on peut pas en mettre une en chômage partiel et l'autre non. Enfin, donc il y a une certaine cohérence à avoir dans le dispositif et oui, ensuite on pourra toujours faire des aménagements si on a vu trop large sur un service qui finalement était planifié pour ne pas travailler pendant 2 mois et qui finalement au bout de 15 jours va reprendre son activité, on pourra toujours faire des avenants à la demande.
D'accord.
Voilà. Ensuite, ce que je peux donner aussi comme retour de terrain, c'est que pour les déclarations que j'ai faites avec mes clients, il nous est arrivé d'avoir, par exemple, des périodes très, très courtes. Par exemple, j'en ai une qui a obtenu une autorisation jusqu'au 31 mars, alors qu'on sait tous que bon, il va falloir refaire le dossier. Donc, c'est un peu rageant parce que souvent, le dossier est assez complexe à monter, surtout quand on est dans des grosses entreprises. Mais voilà, donc on attend en fait les premiers, enfin, on commence à obtenir les premiers retours en fait.
D'accord. Encore sur ce sujet du chômage partiel, si vraiment on se met à la place du coup d'un indépendant, là aussi j'ai reçu pas mal de questions de personnes qui me disent « mais comment faire quand on est président d'une SAS et qu'on n'a pas le droit de toucher le chômage partiel ?» Donc comment faire en fait quand on est mandataire social? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'en fait c'est tant pis et que c'est comme ça? C'est probablement la réalité, mais là-dessus je voulais bien aussi avoir ton expertise.
Alors sur le sujet des indépendants, on attend en fait, on attend des dispositions. C'est comme les dispositions qui touchent le particulier employeur. Pour l'instant, on n'a pas tellement d'informations sur le sujet, mais on attend des précisions en fait.
D'accord. Ok.
Voilà.
Le meilleur.
Et sinon, il y a un autre outil qui peut aussi aider lors de la constitution du dossier. C'est un simulateur de versement de ces aides relatives au chômage partiel, enfin à l'activité partielle. Mm-hmm. Donc, simulateur app.emploi. Voilà, il faut juste regarder s'il est bien à jour des derniers montants, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que les montants avaient été déplafonnés par rapport au régime entre guillemets classique. Ouais. Mais en tout cas, ça peut permettre d'aider les entreprises pour savoir quelles seront les sommes qui leur seront versées.
Donc, tu disais, c'était simulateur, app.emploi, c'est ça?
Exactement.
D'accord, super. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Marie-Laure. Un autre sujet, et j'espère qu'on ne va pas parler que de choses qui fâchent quand même aujourd'hui, parce que je sais que tu ne fais pas que ça du tout, mais bon, c'est quand même un peu l'actualité. On m'a parlé quand même pas mal de gestion de licenciement économique. Donc là, concrètement, c'est dans le cas où... on se dit que même le chômage partiel ne sera pas suffisant et qu'on commence à se dire que c'est trop tard. Je pense peut-être à des personnes qui ont déjà souffert avant les premières mesures de la crise et donc notamment certainement des personnes dans le secteur de l'hôtellerie, des personnes dans le secteur de la restauration qui avaient quand même déjà vu leur chiffre d'affaires beaucoup chuter. Est-ce que là aussi, tu pourrais nous faire un point sur comment mettre ça en place assez simplement? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dirigeant et qu'en fait, on n'a plus tellement le choix et qu'on se dit qu'il faut qu'on passe à l'étape du licenciement?
Alors, c'est intéressant que tu poses cette question parce qu'en fait, donc, il y a eu une grosse actualité, je crois que c'est dans les Échos, je sais plus dans quel journal, en fait, on a eu Muriel Pénicaud qui a fait une déclaration en disant qu'il était intolérable, enfin, qu'elle ne tolérerait aucun licenciement pendant cette période, donc zéro licenciement, a-t-elle indiqué. Alors, c'est dans la presse, hein, effectivement, ouais. C'est pas un canal officiel. Mais, alors, elle parlait, enfin, quand elle disait zéro licenciement, la lecture que j'en ai, c'est évidemment zéro licenciement économique. On voit mal comment un licenciement pour motif disciplinaire pourrait ne pas intervenir. Enfin, c'est complètement décorrélé de cette actualité. Il faut, malgré tout, pouvoir encore exercer son pouvoir disciplinaire. Pas plus tard qu'hier, tu vois, j'ai un dirigeant justement qui m'a sollicité pour qu'on adresse une convocation à entretien préalable, qui est la première étape en fait du lancement de la procédure disciplinaire, ce qu'on a fait, mais il est évident que ces circonstances exceptionnelles vont nécessiter des mesures exceptionnelles et notamment cet entretien préalable, eh bien, dans notre cas, on a proposé aux salariés de le tenir soit par visioconférence, soit à distance, à sa convenance, c'est-à-dire de lui proposer de lui adresser les motifs par écrit qui nous conduisent à envisager son licenciement et qu'il nous fasse part en retour de ses observations sur ses motifs. Donc, on va le tenir à distance. Donc, il va y avoir des aménagements sur les procédures. Néanmoins, sur les licenciements économiques, puisque c'était l'objet initial de tes questions, il semblerait que sur cette période, en tout cas, il convienne d'être extrêmement vigilant et de ne pas, à ce stade, enfin, dans la mesure du possible, si on avait quelque chose dans les tuyaux avant, à ce moment-là, je sais pas tellement, mais j'ai peur que, voilà, compte tenu des déclarations.
En fait, ça soit presque plus compliqué, quoi, c'est ce que tu es en train de dire.
Oui, effectivement. Je sais pas comment ça va être apprécié, ces licenciements économiques pendant la crise.
D'accord, c'est intéressant. Et donc, en fait, au final, quelqu'un qui se poserait ces questions, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Tu lui dirais, rester en stand-by, mettez ces personnes en chômage partiel. Enfin, quelle serait peut-être une bonne option pour ces personnes qui se posent ces questions?
Je pense qu'effectivement, il y a tout un dispositif d'aide qui vient d'être annoncé sur évidemment sur le chômage partiel dont on a, enfin sur l'activité partielle dont on a parlé longuement. Donc ça, effectivement, dans la mesure où l'employeur va être remboursé à 100% des salaires, enfin c'est même pas des salaires, mais des indemnités compensatrices qu'il va effectivement, il y a une avance de trésorerie, mais je pense que c'est quand même un dispositif qu'il va falloir utiliser. Et puis il y a tout un tas d'allègements sur les loyers, sur le EDF, sur l'eau, sur toutes les charges vont pouvoir faire l'objet d'aménagements. Donc je pense qu'il faut, dans la mesure du possible, effectivement utiliser ces dispositifs spécifiques qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Mais j'ai peur que pour le moment les licenciements économiques soient pas une bonne option.
D'accord. Bon, écoute, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi, mais j'espère qu'on n'en aura pas besoin autant que ce que certains, je pense, peuvent le craindre avec toutes les mesures qui ont été mises en place. Une autre question pour toi, c'est concernant tout simplement en fait la gestion plutôt humaine et notamment du télétravail, parce que je pense qu'une grande partie des personnes qui peuvent continuer à travailler, heureusement il y en a quand même qui peuvent continuer à travailler, donc sont en télétravail pour beaucoup, et je voulais avoir ton conseil là aussi au niveau du droit sur peut-être des garde-fous, des guidelines, des principes en fait à mettre en place pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors là on est à la limite entre la RH vraiment pure et le droit. Je me doute que c'est pas vraiment ton métier en fait de donner des conseils sur comment bien organiser son télétravail, mais est-ce qu'il y a quand même de ton point de vue au niveau juridique, des éléments auxquels il faut penser quand on est dans ce type de situation?
Alors oui, évidemment. En fait, l'employeur, il a véritablement à l'égard de ses salariés une obligation de sécurité et de protection de leur santé aussi bien physique que morale. Donc ça passe par tout un tas de mesures qu'il va falloir mettre en place. On parlait tout à l'heure de l'aménagement de tout un tas de dispositions qu'il va falloir prendre en ces temps de crise. Donc on a parlé effectivement de ces indemnités d'activité partielle. On parle là en ce moment du télétravail, mais vraiment quand on décline le télétravail, il va falloir quand même penser au cadre dans lequel on va faire collaborer le salarié. Ce sont toutes des questions qu'on se pose quand on rédige une charte de télétravail ou un document relatif à la mise en œuvre concrète du télétravail dans l'entreprise. On va penser à mettre en place un certain nombre d'entretiens réguliers pour que le salarié soit malgré tout cadré dans la période de collaboration.
Oui, qu'il ne soit pas laissé complètement dans l'inconnu et qu'on lui dise « Ok, tu te débrouilles, quoi ».
Effectivement. Donc, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on n'a pas le droit de demander à son salarié, eh bien, des points réguliers, qu'ils soient quotidiens ou hebdomadaires, à planifier avec l'équipe. L'employeur, même à distance, garde complètement son pouvoir de direction. Donc, il faut l'exercer et davantage. Si on ne l'exerce pas et qu'on est tenté de pas collaborer vertueusement avec les salariés à distance, eh bien, on peut constater un certain nombre de dérives, notamment sur le contrôle du temps de travail. Les salariés, bien que travaillant à distance, l'employeur doit toujours avoir à cœur de s'assurer qu'il n'y ait pas de charge de travail particulièrement élevée à distance, ou à l'inverse, qu'il n'y ait pas des horaires qui soient, anormaux, qui soient réalisés par le salarié. Il faut décliner un dispositif, tellement de contrôle, mais oui, pour s'assurer de la régularité de la collaboration. Donc, ça peut passer effectivement par des points réguliers, des entretiens, pas forcément avec le N+1, ça peut être avec l'équipe, ça peut être avec des collègues, ça peut être l'instauration de visioconférences de manière régulière. L'employeur garde de toute manière le pouvoir hiérarchique. Donc,
Et toi, du coup, ton conseil, alors au-delà peut-être du droit, à ce moment-là, là, je m'adresse plus à la chef d'entreprise aussi, à la tête du cabinet Victor Avocat, ça serait de savoir, en fait, peut-être comment vous avez fait, parce que vous êtes aussi en télétravail, j'imagine. Oui. Est-ce que tu as prévu, du coup, de faire un point régulier avec les personnes de l'équipe? Est-ce que vous avez fait une information préalable, tu vois, quand la situation s'est dégradée et qu'on a eu donc cette obligation de rester chez nous? Est-ce que tu peux me décrire peut-être qu'est-ce que tu as fait et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont dans la situation où ils sont dirigeants d'entreprise, ils ont une équipe à gérer à distance? C'est quand même pas évident. Et comment faire pour que ça se passe le mieux possible?
Alors, à titre personnel, donc là, je vais vraiment te parler de mon expérience personnelle. Ouais. Avec mon associé, de toute manière, pandémie ou pas pandémie, coronavirus ou pas, on fait des points tous les matins, à peu près d'une heure téléphonique pour organiser stratégiquement tout un tas de sujets. Ensuite, pour les collaborateurs avec le travail à distance, effectivement, on a instauré ce système de points régulier. Là, typiquement aujourd'hui pour moi, c'était deux fois par jour. J'avais deux réunions avec des collaboratrices pour faire des points sur des dossiers. Ensuite, on a des stagiaires, plusieurs stagiaires au cabinet en ce moment, et on a suspendu les stages en concertation avec leurs universités respectives, parce que un stagiaire suppose nécessairement d'être encadré dans le cadre de la découverte de l'activité professionnelle à laquelle il s'apprête à intervenir. Donc on a suspendu les stages. Et sinon, les points se font par visioconférence, par Skype. On a aussi des canaux Slack avec lesquels on fonctionne beaucoup. Donc on a différents modes de collaboration, mais de toute manière, on fait des points très réguliers. Alors, téléphonique aujourd'hui, pour ma part, c'était deux fois par jour, mais sinon, par mail, on est archi connecté.
Si on revient juste sur le point des stagiaires, je pense que c'est intéressant, c'est une question qu'on ne m'a pas posée, mais je te la pose à mon tour. Je comprends complètement la démarche, justement, de demander à mettre un terme au stage. C'est vrai que dans la mesure où on ne sait pas combien de temps la crise va durer, on peut se dire que personne, si elle est trop livrée à elle-même, n'est plus vraiment formée, et donc ça peut poser une question. Mais dans ce cas, en fait, comment faire concrètement? Ça veut dire que tu contactes l'école? Quelle est la démarche pour une interruption de stage?
Oui, moi j'ai contacté l'université, qui de toute manière a été consciente de la situation dans laquelle on se trouvait. Les apprentis peuvent être placés en activité partielle, mais moi il ne s'agissait pas d'apprentis, il s'agissait de stagiaires universitaires. Ouais. Donc c'était même pas tellement une question d'indemnité de stage, c'était plus une question, il faut nécessairement qu'on soit à leur côté pour qu'elles puissent assister aux audiences qui de toute manière en ce moment n'ont pas lieu, parce qu'on a eu des directives de la chancellerie, il n'y a aucune audience qui se tient hormis les référés, c'est-à-dire les procédures véritablement urgentes. Donc il n'y a aucun intérêt à faire un stage dans un cabinet d'avocats en ce moment.
Tu peux rien faire, quoi.
Ouais. tu peux pas assister aux rendez-vous clients qui sont uniquement des rendez-vous téléphoniques et qui sont un peu plus compliqué à organiser, donc non, c'était pas intéressant pour elle de toute manière.
Bon, super. Dernier type de question, c'est plus au niveau du salarié cette fois, au niveau du collaborateur, notamment au niveau de leur sécurité et de tout ce qui est sécurité sanitaire, évidemment. On en avait parlé un petit peu en off avant de commencer, où je t'avais demandé comment faire quand on est un collaborateur et qu'on pense que peut-être on est malade et peut-être voilà qu'il faut qu'on se mette en arrêt. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des procédures spécifiques? Est-ce qu'il faut en informer son employeur? Est-ce que typiquement il faut plutôt juste aller sur les sites de l'État se renseigner, enfin au-delà si tu es de l'aspect sanitaire qui est évidemment de consulter un médecin, quelles sont les démarches on va dire juridiques et administratives à mettre en place dans ce genre de cas?
Oui, alors là encore, ces obligations, elles reposent finalement sur l'employeur. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, effectivement, que le salarié se sente malade, qu'il ait été en contact direct avec quelqu'un qui a déclaré la pathologie ou qu'il soit véritablement malade, dans tous les cas, dès lors qu'il y a une situation d'isolement qui est mise en place, on a une procédure particulière qui a été déclinée pour justement le confinement, pour éviter que quelqu'un qui soit malade vienne en entreprise. Pour les entreprises qui fonctionnent encore, donc typiquement les officines, les commerces alimentaires et toutes les sociétés qui fonctionnent encore physiquement, je veux dire, effectivement, il va être placé en arrêt de travail et va bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale. D'accord. Qui sont versées par la sécurité sociale. Et donc, c'est des conditions particulières parce que c'est sans délai de carence. Normalement, quand avant de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, il y a un délai de 3 jours de carence qui est applicable. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de conditions d'ouverture de droit. En gros, il n'y a pas à savoir si le salarié a une ancienneté suffisante ou un nombre d'heures réalisées suffisant. C'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, il sera pris en charge. Voilà, et donc là, en revanche, il n'y a pas besoin d'avoir concrètement un arrêt de travail de son médecin. C'est-à-dire qu'en fait, il va simplement falloir que l'arrêt de travail va être établi par l'employeur qui va faire une déclaration.
D'accord.
Voilà, d'accord. C'est comme pour les cas dans lesquels les établissements scolaires ont fermé récemment, donc il y a des parents qui doivent nécessairement garder leurs enfants. Ouais. Dans cette configuration aussi, le salarié va faire une attestation sur l'honneur indiquant qu'il garde ses enfants, que le télétravail n'est pas possible et qu'effectivement, il est le seul parent à pouvoir s'occuper de ses enfants. Et donc, à ce moment-là, c'est l'employeur qui va se charger de régulariser la situation sur le site Amélie.
D'accord, ça, j'allais te demander, en fait, quand tu es un employeur dans ce cas-là, en fait, c'est sur le site Amélie, tout simplement, qu'il faut aller. Et il y a de quoi trouver des informations pour faire cette déclaration, c'est ça?
Voilà, donc en fait, la charge de la procédure va peser sur l'employeur qui va se charger de cette démarche.
Ok, super clair. Écoute Marie-Laure, merci beaucoup. Je pense que tu as répondu à la majorité des questions, en tout cas que mes auditeurs m'avaient posées. Je ne sais pas si toi, tu avais des choses à ajouter, peut-être des conseils en plus, des sujets qu'on n'a pas abordés qui te paraissent pertinents. Enfin, je sais que là, habituellement, je sais que tu ne gères pas du tout uniquement ce genre de sujet et que vous avez un scope d'action beaucoup plus large, mais dans les circonstances actuelles, je voulais faire un point assez spécifique quand même sur la gestion de la pandémie. Et donc voilà, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas si tu trouves que j'ai oublié des éléments. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te vient en tête.
Non, je trouve qu'on a échangé sur toutes les thématiques un peu brûlantes de l'actualité. Après, de manière plus générale, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui est certain, c'est qu'en fait, et ce que je dis à tous les employeurs que je conseille, c'est qu'en fait, la présence des salariés sur site, pour ceux qui se rendent encore physiquement sur des lieux de travail, eh bien, elle va être clairement corrélée à la capacité qu'auront les employeurs à les rassurer en fait.
Ouais.
Et à répondre à leurs interrogations légitimes. Donc, je pense qu'en fait, il faut être vraiment très carré sur toutes les mesures qu'on décline. Ne pas hésiter à mettre à jour son document unique d'évaluation des risques en expliquant de manière très concrète qu'est-ce qu'on va faire au quotidien, quels sont les risques auxquels les salariés pourraient être exposés dans la transmission et quelles sont les mesures que nous, employeurs, on va prendre pour éviter de les exposer et limiter tous les contacts. Donc, ça peut être des zones de courtoisie, ça peut être les gestes barrières qui sont affichés en long, en large et en travers, ça peut être du gel hydroalcoolique, évidemment, ça peut être le télétravail, ça peut être l'espacement, je ne sais pas, splitter l'effectif entre plusieurs locaux. Enfin, donc, ne pas hésiter à être extrêmement diligent sur tous ces sujets-là parce que ça va, pour les activités qui fonctionnent encore de manière
physique,
un
quoi.
Peu normal, ouais. Ouais, un peu classique, qui continue à avoir des activités, je pense à l'alimentaire par exemple. Pour continuer à s'attacher le soutien de ses collaborateurs, il faut être très vigilant sur les mesures concrètes qu'on met en place pour les rassurer, en fait.
C'est clair, hyper bon conseil. Et un dernier point peut-être que tu m'avais dit aussi rapidement en off, c'est que, et tu l'as dit là aussi en filigrane, c'est que en fait quand même tout évolue très très vite et que ouais. J'imagine que pour vous, professionnels du droit, c'est pas évident aussi de répondre à des questions, et je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté de jouer le jeu, parce qu'au final les choses changent tout le temps et que là on essaye de tous faire au mieux et de donner les infos qu'on a, mais que voilà, au final il faut juste se tenir hyper informé et regarder l'actualité tomber un peu au jour le jour.
Oui, c'est vrai que c'est très évolutif tout ça. Et encore hier, tu vois, on attendait des précisions sur le seuil jusqu'auquel le gouvernement prendrait en charge les indemnités liées à l'activité partielle. Donc tout ça bouge vraiment au jour le jour. Mais le site du gouvernement est très bien fait. Donc, pour tous ceux qui cherchent des renseignements sur les process à mettre en place, ça peut être déjà une bonne base de travail.
Oui, j'allais te demander, en tant que non-professionnel du droit, enfin sans avoir accès aux bases d'Allos et compagnie, qu'est-ce que tu recommanderais comme vraiment site principal pour trouver les bonnes infos?
Eh ben, moi je trouve que effectivement le site du gouvernement est bien fait. Il y a tout un tas de, notamment il y a tout un tas de questions-réponses qui ont été rédigées, qui ont été publiées le 9 mars, qui ont été mis à jour encore le 17. Enfin, tu vois, donc il y a une mise à jour régulière. Bon, après il y a les bases juridiques classiques, mais auxquelles pas tout le monde a accès, évidemment. Ouais. Et puis sinon, voilà, je trouve que les questions-réponses du gouvernement sont une bonne base de travail.
Bon, et puis sinon, indépendamment de ça, si on a besoin d'avoir un conseil plus précis et plus pro, évidemment, il faut se faire accompagner. Et donc, dans ton cas, Marie-Laure, si jamais on souhaite te contacter, bah, déjà, je pense qu'on peut le dire, tu as un podcast qu'il faut écouter, oui. Qui s'appelle Droit Devant, oui. En plus dans lequel j'ai le plaisir d'intervenir bientôt. Alors voilà, qui est un podcast, peut-être tu peux en dire deux mots sur le droit, quel est l'objectif?
Alors, c'est un podcast qui est dédié à la gestion de carrière, donc qui donne des conseils et des voilà pour assurer et faire face aux enjeux de sa carrière professionnelle. Donc, c'est plutôt à destination des dirigeants et des cadres supérieurs, qui est publié tous les 15 jours et qui traite tout un tas de sujets d'actualité qui peuvent préoccuper les cadres.
Bon, génial. Donc, je mettrai le lien aussi, donc droit devant, messieurs, dames. Et puis sinon, si on veut te retrouver sur le monde merveilleux du web, et puis notamment qu'on veut retrouver ton entreprise pour pouvoir éventuellement collaborer avec toi, où est-ce que ça se passe?
Eh bien, sur LinkedIn, sur mon compte, donc Marie-Laure Méolens. Et puis, on a un site internet, victoireavocat.eu. Et puis, par mail, évidemment, je vais peut-être faire la folie de vous donner mon adresse mail.
Allez-y, vas-y, sois folle. Soyons
donc,
fous.
Donc, m.meolens@victoireavocat.eu.
Super. Écoute, Marie-Laure, merci mille fois pour ton temps. Je sais qu'en ce moment, tu en as peu, tu es débordée. Donc vraiment, ça me touche beaucoup. Et j'espère que cet épisode, même s'il n'est pas forcément le plus agréable, parce que ben voilà, la situation ne l'est pas, sera en tout cas utile à beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui se posaient plein de questions. Donc vraiment, un grand, grand merci à toi d'avoir pris ce temps alors que je sais que tu es débordée. Donc,
Et ben de rien, Pauline. Merci à toi, c'était un plaisir.
À bientôt, Marie-Laure.
Au revoir.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin. Si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse, donc à vous de jouer, et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.